Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission mensuelle Urgence, présentée par la section de Villefranche de la Ligue des droits de l'homme, ainsi que par CFM. Le thème retenu aujourd'hui est services publics et droits sociaux. Nous recevons pour développer ce thème M. Yves Marty, responsable syndical FO. Par ailleurs, je vous signale qu'au cours de l'émission, nous aurons l'occasion d'entendre le micro-trottoir réalisé lors des marchés de Villefranche par une équipe de la Ligue des droits de l'homme, ainsi que le billet d'humeur de Dominique Ladé.
Décompresser et souffler. Oublier que tous les jours il faut lutter, ne pas couler, au moins flotter, au mieux naviguer. Tenter de garder le cap sans s'avirer, on peut échouer. Et là vaut mieux savoir ramer pour gagner la terre ferme. Attention, une fois qui est, c'est un lapin, les chasseurs faut éviter. T'es ambitieux, traîne pas trop devant la télé. Si tu reviens de vacances, c'est que t'es un peu trop bronzé. Oublie pas tes FAP avant d'aller te balader, sois pas trop blasé. Allez, seul les stances sont distribués, ça manque jamais de volontaires pour te coller du tartin gommé. Mais faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager, s'activer. Respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allier, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancune ni nerveux pour ne pas être game over au premier niveau du jeu. Yo Jano, c'est pas le moment de yoyoter, ça vient de commencer. C'est ça aussi d'être né égaux et en liberté. S'il y a moyen de bouger, j'en profiterai. Je me disais ça après cette réflexion. Café Club, c'est le petit déj des champions. J'ai de l'ambition, mais pas comme Napoléon. Je suis pas un colon, j'écris que des chansons. L'eau, elle s'enfile, le frisson est le plus loin possible. Je veux enjamber l'horizon, mais je suis un peu comme Antoine. Il faut que je fasse un tube avant. Ma mère m'a dit à Nice, tu deviens un peu encombrant. Je lui ai dit, ok, je me tire, mais je me rase la boule avance. Tu m'as dit que la vie valait le coup, alors j'y crois maintenant. Mais j'ai noté dans mes carnets qu'on en bave régulièrement. Comme on a tous des coups de blues de temps en temps, mais c'est normal. C'est la tension qui chute ou la pression qui monte, va savoir, Jano. Mais il faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager, s'activer. Respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancune ni nerveux pour ne pas être stop eject au premier niveau du jeu.
Service public, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?
Beaucoup de choses.
On a le droit de réfléchir.
C'est difficile, hein ?
Je ne suis pas un politicien, moi.
Ça évoque pour moi une véritable catastrophe.
La continuité territoriale, non ? Comme il disait, je crois, avant.
Le système sanguin de la nation. Les artères, le cœur, les poumons.
Le fait que partout, on ait droit donc, à un service public.
C'est essentiel.
Sur le plan national, tout ce qui est transport et poste, et tout ce qui gravite à ce niveau-là, quoi.
Ça veut dire pas essayer partout de maintenir quelque chose qui représente l'État et qui rend service à tout le monde.
L'administration.
L'intérêt général.
Même droit pour tous, si possible. L'école, la santé, les transports.
Et un service pour tous, pour chaque citoyen.
On voit des postes fermés partout, principalement dans l'enseignement, où un retraité sur deux n'est pas remplacé. Et je constate que dans les établissements, le nombre d'élèves augmentant, le nombre de postes diminue, donc on se retrouve avec des difficultés. Et si c'était le seul service public, mais ce sont tous les services publics qui en général sont attaqués, où les effectifs diminuent et disparaissent, surtout dans des régions comme la nôtre, des régions rurales où la poste disparaît, le service en général.
Comme dit le nom, le service au public, c'est-à-dire à tout le monde.
Ça évoque la grosse décadence parce que les services publics, si on continue comme ça, il n'y en aura bientôt plus.
On se demande vraiment si bientôt l'État sera représenté quelque part.
Sans service public, une société ne peut pas fonctionner normalement.
Très évident que si on paye des impôts, c'est pour s'offrir des écoles, des routes, des autoroutes, des voies de chemin de fer, de l'électricité. Et ma foi, en ce moment, il me semblerait bien qu'il soit un peu attaqué et fort malmené. À savoir que notre service public est offert à des gens qui l'achètent gratuitement et que notre armée, par exemple, défend vaillamment les intérêts des pétroliers qui nous coûtent la peau des coudes et qui ne nous rapportent rien.
Alors, service public et rentabilité, qu'en pensez-vous ?
Mais c'est...
ça ne peut pas marcher.
Totalement incompatible.
Bon, j'ai été dans l'enseignement, j'en sais quelque chose. Et puis, sur la santé, sur rien, ça ne peut pas marcher.
Parce qu'en supprimant du personnel, personne qui reste a beaucoup plus de boulot. Et si tu veux, bon, rentabilité, parce qu'on gagne un poste et on paye... en perdant, je veux dire, mettons une personne... Automatiquement, l'État paye moins, économise sur le personnel.
C'est un peu compliqué. Je pense qu'au départ, ça n'a pas été fait, le service public, pour rentabiliser.
Non, il ne faut pas confondre le service public, il ne faut pas chercher à que ce soit rentable.
Mais le service public est par définition rentable.
Ça veut dire que le service public, on fournit un service qui coûte de l'argent à l'État, et ce sont les citoyens qui doivent compenser ce déficit.
Ça me fait sourire.
Ah ben c'est un peu la tendance, c'est-à-dire de faire gérer des services publics comme on gère des entreprises. Je le vois beaucoup aussi à l'école.
Pourquoi la France occupe-t-elle cette position dans le monde ? Elle occupe cette position parce qu'elle avait jusqu'à présent la possibilité de former des chercheurs, de former des techniciens d'haute valeur, de former des médecins et des professeurs de médecine de haute valeur, d'avoir une formation impeccable. Or, en réduisant l'enseignement à la base, on est en train de scier tout ça. La France deviendra un pays du tiers-monde.
Ni plus ni moins.
On est en train de couper la branche sur laquelle on est assis.
On nous demande toujours maintenant, on parle de performance, on nous parle d'efficience, de mots comme ça, barbares, mais je crois que c'est incompatible. C'est-à-dire, il me semble que si le service public est une priorité, on ne peut pas le penser en termes de rentabilité.
Il est hors de question de parler de rentabilité quand on parle de service public.
Ça me plaît. Vous savez pourquoi ? Est-ce qu'un hôpital doit être rentable ? Est-ce que l'armée est rentable ? La question est posée, la réponse est dans le contenu.
Est-il normal que les services publics deviennent une source d'enrichissement pour des personnes ou des sociétés privées ?
Je ne vais pas vous répondre, non, oui, là. Bien sûr que non.
Mais non, absolument pas.
On ne doit pas mélanger.
Le service public, comme le veut sa définition, est un service qui est au service de tout le monde et qui n'est pas là pour créer des ressources, mais pour combler des besoins, et uniquement des besoins, et Dieu sait s'ils sont nombreux.
C'est scandaleux même.
Un exemple dans les hôpitaux, ça fait très longtemps que le privé est rentré.
Bon, ça va contre tout ce qui peut nous sembler justice.
Il y a une question de morale là derrière. Hein.
Dans les hôpitaux, les médecins sont dans les hôpitaux, ont leur cabinet, ont des consultations privées dans les hôpitaux. Moi, je trouve ça normal.
C'est marcher sur la tête.
Mais c'est-à-dire que ça, c'est un problème de gestion des instances aussi bien nationales que, comment dirais-je, locales, qui préfèrent donner du travail à des entreprises, des fois, plutôt que de le faire à soi-même. Quoi.
Les besoins des citoyens ordinaires ne doivent pas servir à... Les besoins essentiels, je veux dire, des citoyens ordinaires ne doivent pas servir à engraisser des gens qui sont déjà bien gras. Quoi.
C'est un cercle vicieux, de toute façon.
C'est vraiment très compliqué.
Ça s'appelle de la perversion. C'est très simple. On sait très bien que Danone a essayé de pénétrer en force dans l'éducation nationale, a offert des cours tout à fait prêts à des professeurs pour que, ma foi, ils n'en aient encore moins rien à faire, avec des fiches également de correction, et que ça a mené droit à la catastrophe, à une espèce d'uniformisation ou d'uniformité de l'enseignement, sans saveur, sans sel, sans poivre.
Le public n'a jamais été informé.
C'est triste, justement, de voir... qu'on en est presque obligé, on dirait parfois, de passer par là, alors qu'il y avait moyen, sans doute, il y a moyen de faire d'autres choix, en mettant d'autres valeurs derrière l'action politique, puisque là, ça dépend de l'action politique de tous les élus, et surtout, évidemment, au plus haut degré de l'État.
L'égalité pour tous, par rapport au droit à la santé, à l'éducation, à la culture, au transport, comment la mettre en œuvre ?
Oula, ça c'est une... Comment la mettre en œuvre ?
Eh bien, justement, par des services publics performants.
Oui, la mettre en œuvre. Il faut refondre toutes les choses à ce niveau-là. Quoi.
Il suffit d'appliquer les fondamentaux de la République. Je crois qu'il existe une constitution et cette constitution, d'après moi, devrait prévaloir devant toutes les lois.
Bah là, il faut refaire marche arrière parce qu'il y avait depuis longtemps, depuis l'après-guerre, vraiment des gros efforts d'une mise en œuvre pour une véritable égalité devant les droits essentiels. Et maintenant, depuis plusieurs années, c'est rogner.
Par rapport au désengagement de l'État, par rapport aux petits, les enfants de 2 ans, les enfants de 3 ans, je trouve ça scandaleux.
Donc, bah, il faut contrer ce qui se fait par tous les moyens possibles pour arriver à faire des choix qui sont essentiels, mais qui ne peuvent pas marcher avec justement les choix de rentabilité pour quelques-uns.
Qui est-ce qui va accueillir ces enfants de 2-3 ans? Soit, évidemment, c'est ceux qui auront les moyens qui pourront payer, ou soit c'est les municipalités qui vont se sentir un petit peu coupables et donc qui vont essayer de mettre des structures en place. Qui est-ce qui va payer? Ben, c'est quand même les impôts locaux. Hein. Et en plus, ça va accentuer la désertification au niveau rural, puisque qui est-ce qui va arriver à mettre en place, par exemple, des structures d'accueil, jardins d'éveil, etc. Ce sera les municipalités qui auront le plus de moyens. Et petit à petit, les communes rurales n'ayant pas les moyens, il y aura une désertification qui va s'accentuer au niveau des... Voilà, bon, on pourrait développer sur tous les aspects, hein, mais bon...
Moi, je gagne le SMIC, et j'ai une autre personne qui gagne 100 000 euros par mois. Ces deux personnes vont dans un service public et payent la même chose. Ben, c'est pas normal.
Et il faudrait que tout le monde ait le droit au même traitement, et malheureusement, ça y est pas. Et comment le mettre en œuvre, ça c'est nos politiques, et c'est même pas nos politiques, c'est plutôt, on est gouverné par des financiers plutôt que des politiques.
Oui, ben, un changement de principe actuel par rapport à ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire en maintenant quand même des structures dont on sait qu'elles ne produiront pas de bénéfices. Donc il faut les maintenir pour justement, parce que ce sont les plus pauvres qui en auront le plus besoin, les plus défavorisés qui en auront le plus besoin. Mais pourquoi pas dire les plus pauvres, puisque c'est un mot qu'ils ne veulent pas qu'on emploie, mais c'est bien ça. Et c'est pour eux qu'il faut justement les maintenir, parce que je ne me fais pas trop de soucis pour les autres.
D'autre part, je pense qu'il y a une question qui dépasse la France et qui est européenne. Donc il faut travailler à de véritables services publics à l'échelle européenne.
On ne pourra mettre en œuvre l'égalité de l'éducation que si le nombre d'enseignants est suffisant pour prendre en charge les élèves qui, au départ, ont déjà des difficultés. Si ces élèves-là sont laissés sur le bord de la route, eh bien, effectivement, le service public ne rendant pas son service, on va se retrouver avec des inégalités qui ne sera pas possible de gommer par la suite.
Pour moi, la solution, c'est que tout est lié et que pour la mettre en œuvre, il faut abattre le capitalisme parce que c'est la source de tous nos maux et ça ne peut en passer que par là.
De nos jours, peut-on encore penser à une protection collective et solidaire?
C'est ces valeurs-là qu'il faut remettre justement au niveau du discours politique, les valeurs de solidarité en particulier et de la solidarité de tous envers chacun ou chacun envers tous. Mais en même temps, il faut que ça soit dans tous les sens. Mais c'est oui, cette valeur-là, il faut y arriver à le penser. Mais ce n'est pas en termes de rentabilité que ça se joue. La rentabilité, elle sera justement là peut-être au fond parce qu'on aura évité bien des dégâts, on aura évité des fractures, on aura évité des laissés pour compte. Et ça, on ne le comptabilise jamais quand on est en train de fermer des classes, quand on est en train de fermer même les postes. On ne compte jamais aussi sur les dégâts que ça fait dans la société.
Mon opinion, tu vois bien que tous les jours, on va contre un mur. Alors, qu'est-ce que je te dis ça?
Il y a de moins en moins de solidarité entre nous, déjà.
On s'aperçoit que la protection est souvent en fonction des revenus et souvent en fonction de la situation sociale occupée par les personnes qui en ont besoin. Et donc, je pense que là aussi, les inégalités se creusent de plus en plus.
Parce que chacun se regarde plutôt soi-même que l'on parle le voisin qui est à côté, qui des fois mériterait d'être suivi psychologiquement et matériellement également, quoi.
C'est pas du tout à la mode, c'est pas du tout dans l'air du temps.
On essaie de le piétiner pour plus de rentabilité pour certains.
On est dans une pensée anglo-saxonne, c'est-à-dire à base de cupidité, de duplicité, d'égoïsme et d'hypocrisie. On n'est pas du tout parti dans cette voie, mais c'est dommage.
Protection solidaire, elle devient de moins en moins solidaire.
On a l'occasion de voter bientôt, donc votons.
Donc je pense que de toutes nos forces, c'est la première des choses qu'on a à défendre. Voilà, ça me semble essentiel. Sinon, nos enfants et nos petits-enfants vont vers la catastrophe.
Il faut lutter.
C'est bien pour ça qu'on est là, pour lutter, pour essayer de faire prendre conscience à tout le monde que les services publics c'est absolument nécessaire, mais que la solution c'est d'abattre le capitalisme, hein. C'est la seule solution pour nous.
Nous on est vieux, c'est pas enfin pour nous il n'y a plus rien à perdre, mais pour ceux qui arrivent il y a beaucoup à perdre.
Monsieur Yves Marty, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, nous avons donc aujourd'hui à nous intéresser au thème suivant, comme je viens de le dire, services publics et droits sociaux. Je voudrais faire quelques remarques tout d'abord qui, je pense, vont vous permettre de développer, déjà d'aborder cette question, même si c'est de façon superficielle au départ. Nous approfondirons la question par la suite. Tout d'abord, les services publics, nul n'ignore qu'ils ont été mis en place par le Conseil national de la Résistance après la guerre. Évidemment, le but de ces services publics, c'était d'améliorer la vie des gens qui venaient de vivre quand même une période très difficile. Par ailleurs, parallèlement au développement de ces services publics et la mise en place de règles définissant parfaitement leur fonctionnement, ont été mis en place des droits sociaux, même si, à première vue, services publics et droits sociaux ne présentent pas une relation parfaitement évidente, il est incontestable que les droits sociaux sont indissociables des services publics. Or, les droits sociaux aussi sont ceux qui ont été élaborés tout au moins à la fin de la guerre par le Conseil national de la Résistance, sont très nombreux. Est-ce que vous pourriez déjà dire quelques mots, Monsieur Marty, sur ces droits sociaux et en particulier ces services publics aussi?
Bon alors, oui, services publics et droits sociaux sont quand même de vastes débats. Je crois que les deux sont tout de même liés, comme vous venez de le dire. Le service public, c'est quoi? A priori, le service public a pour but de rendre l'ensemble de citoyens d'un même territoire, de notre territoire donc, égaux devant ces services publics. Services publics qui sont, on peut citer les principaux, mais bon, je ne vais pas être exhaustif, qui sont l'éducation, qui sont la santé, qui sont la justice. Ces droits sociaux, donc, doivent être accessibles pour l'ensemble des citoyens de la même manière, où qu'ils soient situés géographiquement, quel que soit leur niveau social. Tout le monde doit avoir droit de la même manière. Je crois que ça fait partie aussi de la devise de notre République. Dans notre République, il y a liberté, il y a aussi égalité. Donc je crois qu'en matière de service public, le but originel, c'est de mettre chaque citoyen à égalité devant ces services publics, que sont, bon, j'aurais dû en citer beaucoup d'autres, il y a la poste, il y a l'électricité, il y a, en fait, etc. Donc voilà, en matière de services publics. Ensuite, les droits sociaux. Bon, les droits sociaux naissent également, comme vous l'avez rappelé, des ordonnances de 1947 qui se sont inspirées donc essentiellement du Conseil national de la Résistance, qui avait été préparé donc pendant une période difficile, pour justement pallier aux aléas de la vie, à savoir de la naissance, je dirais, jusqu'à la mort. C'était pour faire face donc aux difficultés, aux soucis que peut rencontrer le citoyen ou l'assuré social tout au long de sa vie, donc pour pouvoir lui assurer un minimum de ressources, un minimum de soins s'il est malade. Et je crois que l'objectif, c'était bien ça. Alors, je ne sais pas, je pense qu'on pourra revenir davantage là-dessus, sur peut-être l'évolution de ces services publics ou de ces droits sociaux, parce que c'est en plus d'actualité. Donc, je pense qu'on va y revenir.
Oui, effectivement, il est beaucoup question actuellement en particulier des services publics et des droits sociaux qui sont attachés. Et en particulier, on assiste actuellement à une remise en question de ces services publics. Et le prétexte qui permet justement de remettre en question ces services publics, c'est un prétexte de rentabilité. C'est-à-dire qu'on compare les services publics aux entreprises privées, en quelque sorte. Et actuellement, nos gouvernants considèrent que les services publics doivent fonctionner sur le même type que les entreprises privées, c'est-à-dire qu'ils doivent être rentables. Que pensez-vous, justement, de ce caractère de rentabilité que l'on rattache aux services publics ? Est-ce qu'il est justifié ou est-ce qu'il est... cela peut s'expliquer ou est-ce que il s'agit d'un problème totalement différent de celui qui se peut se poser dans une entreprise privée?
Alors, votre question est très pertinente et très intéressante, parce que je crois qu'elle fait l'objet de beaucoup de débats actuellement. Alors, moi, je dirais d'abord que le service public n'a pas de vocation à être rentable. Ça n'était pas sa vocation originelle, puisque sa vocation originelle était de rendre un service en fonction de besoins, quel que soit le secteur service dont on parle, qu'il s'agisse d'éducation, de santé, etc. Je crois que le terme de rentabilité est venu de la part des tenants du libéralisme effréné, je dirais, et ce sont eux qui tiennent ces propos, ceux pour qui le marché doit tout régler. Alors, pour autant, je dirais qu'il n'est pas choquant que des citoyens responsables souhaitent que le service public soit le plus efficace possible, au meilleur possible. Mais je rappelle que ça n'est pas la nature du service public de produire des richesses. Pour autant, j'aimerais quand même rappeler que le service public peut aussi être une source d'enrichissement. Alors, pas spécialement financière. Je vais prendre deux ou trois exemples, si vous le voulez bien. Je vais reprendre l'exemple de l'éducation. L'éducation, certes, est un domaine qui, a priori, semble coûter de l'argent. Bien sûr qu'il faut entretenir nos collèges, nos lycées, nos écoles, il faut payer nos enseignants, donc cela a un coût. Mais en contrepartie, les formations qu'ont diffusées ou données nos enseignants, les formations de qualité qui ont été données depuis des décennies dans notre pays, notamment en France, ont permis de devenir compétitifs, d'avoir de la matière grise qui a fait que nous sommes devenus compétitifs dans beaucoup de domaines. Je ne vais pas en citer, j'en ai un en esprit, c'est par exemple, mais on pourrait en citer plein d'autres. J'ai par exemple l'aéronautique, où nous sommes quand même un peu précurseurs en la matière. On pourrait parler aussi de la capacité de telle ou telle profession manuelle, où on a des génies qui s'expriment. Donc c'est parce qu'ils ont reçu des formations pointues qu'ils nous ont permis d'obtenir peut-être des parts de marché à certains niveaux. Donc quelque part, on ne peut pas dire non plus que le service public est une source à engloutir de l'argent, mais ça a aussi un effet qui est tout à fait bénéfique, y compris sur le plan économique. Alors je vais prendre aussi d'autres exemples. On peut prendre l'exemple de l'électricité, on peut prendre l'exemple des télécommunications, on peut prendre les exemples des autoroutes. Ce sont des secteurs qui sont tout à fait excédentaires en matière de devises. Tous ces secteurs d'activité ont rapporté de l'argent dans les caisses de l'État. Alors on peut aussi se poser la question, nous y viendrons sans doute, vous me l'avez peut-être un petit peu posé, c'est pourquoi avoir privatisé certains services publics et pourquoi la tendance est de privatiser les services publics? Eh bien parce que, je m'excuse de me répéter, mais ce sont les tenants du libéralisme à outrance qui ont toujours envie de faire toujours plus d'argent et qui donc ont privatisé des services qui montrent aujourd'hui et vont montrer demain que gérés par le privé, ils ne sont pas plus efficaces que gérés par l'État. Quand c'est l'État qui encadre, il n'est pas toujours plus mauvais gestionnaire que le secteur privé. Et j'ajouterai, et là c'est une nuance qui me paraît importante pour le citoyen, c'est que le service rendu est loin d'être aussi efficace souvent par le secteur privé que par le secteur public. Prenez l'exemple, quel est notre interlocuteur qui n'a pas eu un jour un souci avec son réseau EDF, avec son compteur EDF, avec son téléphone ou avec son abonnement Internet? Eh bien, allez essayer de vous faire dépanner aujourd'hui par ces entrepreneurs privés, vous vous rendrez compte, vous commencez à passer la moitié de votre journée au téléphone pour réussir à joindre le bon interlocuteur qui va peut-être pouvoir vous donner une explication sur le souci que vous avez. Alors voilà un petit peu en matière de service public et de rentabilité, mais moi je pense que le service public est le garant d'une égalité du citoyen devant l'ensemble de tout un tas de services qui sont indispensables à la société dans laquelle nous vivons.
Oui, effectivement, vous avez bien fait de faire remarquer que les privatisations qui ont été effectuées, en particulier en ce qui concerne les autoroutes, les télécoms ou Gaz de France, pour ne citer que quelques entreprises publiques qui ont été privatisées, le prétexte qu'on avance, c'est un prétexte d'efficacité. Or, vous avez fait remarquer que l'efficacité, et je pense que tous les citoyens peuvent s'en rendre compte, l'efficacité, elle n'apparaît pas après privatisation. On ne voit pas une amélioration du service donné par ces ex-entreprises public, on ne voit pas une amélioration du service une fois qu'ils ont été privatisés. Par conséquent, je crois que l'efficacité, comme ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire un problème de rentabilité, je ne vois pas effectivement sur quoi ça peut reposer. Et la bonne raison, vous l'avez fait remarquer aussi, je pense que cela tient à l'idéologie néolibérale et il s'agit tout simplement, à mon avis, c'est un point de vue personnel, bien sûr, de permettre à certains de bien se remplir les poches. Ceci étant dit, du fait que ces entreprises sont privatisées, qu'elles ne relèvent plus du domaine public, qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus possible de les contrôler comme par le passé, qu'en est-il donc de l'égalité des citoyens à ce cas-là? Compte tenu du fait, évidemment, que à partir du moment où une entreprise est privatisée, il y a une complexité qui se greffe là-dessus, permettant justement au nouveau propriétaire de l'entreprise d'effectuer de plus en plus de profits, il faut employer le terme. Donc, que pensez-vous de ce qu'il ressort de ceci en ce qui concerne l'égalité des citoyens, puisque c'est un des mots forts du triptyque liberté, égalité, fraternité?
Oui, alors, l'égalité, c'est vrai qu'on peut en parler, et il est vrai que c'est le principe de base donc de la mise en place des services publics et de beaucoup, pas mal de droits sociaux donc qu'on peut apparenter aussi également aux services publics. Alors, principe d'égalité de tous les citoyens devant ces services publics. Je crois, moi, que le meilleur moyen, puisque vous avez parlé de comment la mettre en œuvre, cette égalité du citoyen devant les services publics, moi, je crois que le meilleur moyen de la mettre en œuvre, eh bien, c'est de faire du service public et de maintenir du service public. Alors, je ne suis pas le défenseur de tout service public et que tout doit être public et géré par l'État. Non, mais je crois que les fonctions régaliennes de l'État doivent rester du domaine public. Je pense notamment à l'éducation, je pense à la santé, je pense à la justice, qui me semble être d'actualité pas mal ces jours-ci. La santé, je le dis, le secours, la sécurité, je pense que c'est des secteurs où on ne devrait pas envisager de confier, même si c'est qu'une part de ces services-là, au secteur privé. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut penser que ce principe d'égalité est de moins en moins vrai, puisqu'il y a un désengagement de l'État, et je pense que c'est ce qui justifie qu'on poursuive cette politique, ce qu'on appelle la RGPP, c'est-à-dire la révision générale des politiques publiques, c'est donc pour diminuer les déficits budgétaires afin de faire plaisir au marché, et je pense notamment aux critères de stabilité, en fait, etc. Pour faire plaisir au marché, on prend des décisions où on veut à tout prix réduire donc ces déficits budgétaires et on se désengage à tous les niveaux et dans tous les services publics. Alors, on crée ce que j'appellerais moi une société à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on va avoir les gens qui, en fonction de leur secteur géographique, mais aussi et surtout en fonction de leur niveau social, les riches seront mieux servis que les pauvres. Le petit agriculteur isolé du Nord Aveyron ou du fin fond du Sud Aveyron aura sans doute du mal à recevoir son courrier aussi vite que l'habitant de la banlieue toulousaine ou du centre-ville, y compris peut-être de Villefranche. Donc je veux dire que là, on commence à rentrer dans un système inégalitaire. Et ça, c'est inadmissible. Et ça, il est inadmissible que les pouvoirs publics, les gens qui nous gouvernent, cautionnent ce genre de politique. Là aussi, il y a des exemples qui sont frappants. La justice, la sécurité, les secours, parce que les secours ils sont sous la gestion des conseils généraux. Savez-vous, par exemple, que pour la première fois en 2011, 16 conseils généraux, ce qui veut dire 16 départements, ont annoncé une réduction des effectifs de pompiers professionnels? Alors ça, c'est vrai dans tous les services publics, certes, mais il y a des secteurs où c'est inadmissible. Est-ce que ça veut dire que le secours va être peut-être moins bien assuré dans certains secteurs? C'est quelque chose de grave. La réforme de la carte judiciaire, qui date de 2008 ou 2009, on a supprimé tout un tas de juridictions. Alors, je suis sensible à ça, moi je pense au conseil de prud'homme, par exemple. On a supprimé 60 conseils de prud'homme, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des procédures qui sont passées du simple au double. Des procédures qui duraient 12 mois, elles durent aujourd'hui 24 mois. Qui c'est qui est pénalisé? C'est le petit justiciable, le petit salarié qui a un souci avec son entreprise et qui attend qu'on régularise ou qu'on répare une situation fautive de la part de l'employeur, eh bien, il doit attendre plus longtemps. On a supprimé un tiers des tribunaux d'instance. On a supprimé 20 tribunaux de grande instance. Ce qui veut dire qu'on éloigne la justice du justiciable parce qu'on ne veut pas mettre les moyens. Alors, le service public est basé sur le principe d'égalité et là, je considère que l'égalité commence à être bafoué. Donc le seul moyen de conserver cette égalité du citoyen, c'est que l'État garde la gestion et le contrôle de tous ces services de base, qui sont d'ailleurs la base de notre République.
Bien, vous avez donc évoqué là, ces divers ministères qui actuellement voyez leurs fonctionnaires, le nombre de leurs fonctionnaires fondre sous le prétexte évidemment de rentabilité et d'efficacité. Or, effectivement, vous avez fait remarquer que c'était un prétexte, puisque nous constatons actuellement que dans l'éducation nationale, le taux d'encadrement dans le primaire et le supérieur est nettement inférieur à ce qu'il est dans la plupart des pays européens. Je ne parle pas du secondaire, puisqu'apparemment, il se situe dans la moyenne par rapport aux autres pays européens. Donc, on avance les prétextes, et ceci, au nom de la rentabilité et l'efficacité, on limite de plus en plus le nombre de fonctionnaires, et ce sont des milliers de fonctionnaires, pour ne citer que l'éducation nationale, qui chaque année ne sont pas remplacés. Bien, en fin de compte, on se rend compte que c'est une idée qui, ce n'est pas quelque chose d'innocent. Il y a toute une stratégie apparemment menée par les pouvoirs publics, une stratégie dont le but, évidemment, c'est de mettre en difficulté ces services publics. Et pour en revenir à l'éducation nationale, il est bien évident que si on limite le nombre de profs, ça va se répercuter sur sur les acquisitions des élèves. C'est une évidence. Donc on se demande s'il n'y aurait pas, et j'emploierai un mot très fort, une sorte de sabotage qui permettrait de dire, vous voyez, ça ne marche pas, donc on va refiler tout ça au privé. Et il est bien évident que il y a pas mal de... Quand je parle d'école privée, je ne veux pas parler d'école confessionnelle, je parle d'école privée en général, école privée laïque, qui recrute leurs élèves... ce sont des clients, les élèves, dans ces cas particuliers. Une scolarité dans un établissement privé hors contrat coûte très cher. Et je me demande si, au terme de ceci, on ne cherche pas à favoriser, tout au moins dans le domaine de l'éducation nationale, les entreprises privées, c'est-à-dire des écoles privées hors contrat. Et je pense que c'est valable aussi, d'ailleurs, pour ce qui est de la santé ou de la justice, ou bien que la justice, on ne peut pas la confier au privé, je ne le pense pas. Mais c'est valable, je pense, pour la santé, pour beaucoup d'autres services publics. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord et je rebondirai sur le... Je crois que les gens de l'intérieur, moi j'en fais partie donc puisque je suis... j'ai un statut de droit privé mais je travaille dans une entreprise publique et qui rend un service public. On a des fois l'impression de l'intérieur qu'on fait tout pour saboter justement l'outil dans lequel on travaille. Alors c'est vrai, vous l'avez dit dans l'éducation nationale, mais je crois que c'est vrai dans tous les services. Partout, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de rentabilité, pour des raisons d'argent, donc de libéralisme sauvage, je dirais, on prive ces services des moyens de fonctionner. Alors, en les privant suffisamment, on arrive à un moment, à un point de non-retour, où ces services-là ne peuvent plus être rendus dans des conditions raisonnables. Or, l'objectif, c'est que chaque citoyen ait le même service, où qu'il se trouve, quel que niveau qu'il soit. Ce qui veut dire que si l'administration n'a pas les moyens budgétaires en effectif, à moyens matériels, de mettre en place et de rendre un service de qualité aux usagers... Alors maintenant, on ne parle que de client, j'aime pas trop ce terme, parce que le client, si c'est un client, c'est que c'est commercial et que quelque part... Donc moi, je préfère parler d'usager. On ne peut pas rendre ce service de qualité à l'usager, donc le service n'est pas bon, donc on le critique, ça permet de le critiquer pour mieux le supprimer derrière, en disant, bon, on a des exemples, regardez, c'est pas sérieux, il faut attendre 20 minutes au guichet de telle ou telle administration, on attend longtemps pour avoir tel ou tel remboursement, telle ou telle allocation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les moyens de manière à faire ce travail correctement. Alors, regardez, il n'y a plus qu'une solution. Il faut privatiser. Donc, je crois qu'il y a une volonté délibérée. À des moments donnés, on se demande donc si ce n'est pas voulu. Et si par hasard, c'est voulu, ça peut s'appeler du sabotage. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
Et je pense qu'effectivement, vous voulez faire remarquer que vous êtes un délégué syndical. Donc, par conséquent, vous... connaissez pas mal les problèmes sociaux. Et en plus de ça, vous êtes un professionnel de la sécurité sociale. Par conséquent, vous connaissez parfaitement tout ce qui relève de la sécurité sociale, et en particulier tout ce qui touche le remboursement des actes médicaux ou des médicaments. Mais vous connaissez aussi le système de santé, plus ou moins directement, mais vous le connaissez aussi. Alors, concernant justement le système de santé, actuellement, on entend dire que dans les hôpitaux, les professionnels, des hôpitaux, je parle là, rencontrent sérieuses difficultés. Quels sont les échos que vous pouvez avoir, vous, en tant que délégué syndical, même si vous n'êtes pas délégué syndical dans l'hôpital? Mais vous avez quand même des connaissances, ne serait-ce qu'avec, par les relations que vous pouvez avoir avec vos collègues délégués syndicaux de l'hôpital. Quelle tendance observe-t-on actuellement? Quelle dérive, pourrait-on dire, observe-t-on dans le domaine de la santé, donc?
Oui, alors, santé, protection sociale, je crois que tout cela est plus ou moins lié. Je vais vous parler de l'hôpital parce que je connais pas mal l'hôpital et que c'est quelque chose de très important et qui intéresse beaucoup les gens. Mais la protection sociale dans son ensemble, donc, inclut notamment la santé, puisque l'hôpital est, bien entendu, alimenté par la sécurité sociale, c'est-à-dire par nos cotisations. La protection sociale, qui doit donc être collective et solidaire, c'est comme ça que ça a été prévu à la base, qui date également de 1945 et du Conseil national de la Résistance, pour faire face donc aux besoins tout au long de la vie. Depuis bien des années, au nom de la rentabilité, toujours pareil, comme les services publics, la protection sociale est régulièrement remise en cause. Tout le monde reconnaît, notamment depuis quelques années, depuis que la crise a éclaté en 2008, que nos dispositifs de protection sociale ont été très efficaces comme amortisseurs sociaux de cette crise. Et les responsables de notre pays, les plus hauts responsables du pays, ont reconnu que grâce à une protection sociale de qualité, nous avions mieux encaissé la crise que d'autres. À partir de là, on aurait pu penser qu'ils tiennent compte de ces enseignements-là et qu'ils en profitent pour prendre le contre-pied des marchés financiers qui veulent en permanence remettre en cause nos systèmes de protection sociale. Or, rien n'a changé. Le démantèlement des services publics et de solidarité se poursuit. Hier, sur les retraites, aujourd'hui, sur l'assurance maladie ou la dépendance, comme on va le voir dans les mois qui viennent. Alors, vous m'avez parlé de l'hôpital. L'hôpital est un exemple, également, où on ne donne pas les moyens nécessaires aux hôpitaux de remplir correctement leur mission. Alors, ça, on a envisagé tout un tas d'hypothèses pour budgétiser l'hôpital. On a essayé plusieurs manières. On en est aujourd'hui à une tarification à l'acte. Alors ça, c'est catastrophique parce que l'hôpital doit devenir rentable. Et maintenant, l'exemple, c'est telle maladie, ça doit coûter tant, ça doit durer tant de temps en hospitalisation, etc. Ce qui veut dire que les directeurs d'hôpitaux se trouvent dans des situations qui sont catastrophiques, qui sont ingérables. On a des exemples de directeurs d'hôpitaux qui dénoncent la situation dans laquelle ils sont. Moi, on peut prendre les informations de directeurs d'hôpitaux qui s'insurgent et qui disent « maintenant on en est à un stade où on doit faire, c'est les termes qu'ils emploient, on doit faire de l'abattage. » C'est-à-dire qu'ils ont dans leur service des malades qui sont là pour telle ou telle maladie. Telle maladie doit correspondre à 3 jours d'hospitalisation. Il se trouve que au bout de ces 3 jours, le patient, on ne peut pas le renvoyer chez lui, soit parce qu'il n'est pas complètement guéri, soit parce que c'est une personne seule, dans un coin isolé. Eh bien non, le directeur, il ne peut pas. S'il le fait, il rend service au malade, il lui apporte un soin de qualité, mais en contrepartie, il perd de l'argent, il perd un lit pendant 2 jours, pendant 3 jours, donc, et ils sont contrôlés de manière très 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 précise, donc ils ne peuvent plus fonctionner. C'est catastrophique que dans une société comme la nôtre, qui produit des richesses, ne soit pas en capacité de donner les financements nécessaires pour se soigner.
Bien donc, il semblerait qu'actuellement, on s'achemine vers une libéralisation au sens dur du terme, une libéralisation de tout ce qui a été mis en place par le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire aussi bien les services publics que tous les acquis sociaux qui existent de nos jours. Et malheureusement, on peut se poser la question si on ne va pas déboucher sur une situation telle que celle qui sévit aux États-Unis, où on sait très bien que sur 300 millions d'habitants, peut-être un peu plus, il y en a 45 millions qui n'ont pas les moyens de s'assurer, et du fait que d'assurer au niveau de la santé, parlons, et du fait évidemment que là-bas les assurances privées sont très chères, ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Et on assiste donc régulièrement dans certains secteurs des États-Unis à des journées portes ouvertes où tous ceux qui ne peuvent pas se faire soigner viennent se faire soigner bénévolement par des médecins bénévoles qui, 2 ou 3 jours, s'occupent de leurs personnes. On se demande si on ne va pas arriver un jour à cela, et je pense que effectivement la conclusion, c'est que le problème de façon à remédier à cette situation actuelle, le problème est purement politique. Un dernier mot.
Oui, alors c'est évident, ça c'est à cause du capitalisme libéral dans lequel nous vivons. On veut faire peser sur les individus les risques sociaux. Si on fait ça, on s'achemine vers une société où chaque individu devra s'assumer en fonction de ses moyens. L'État n'étant plus responsable que des plus démunis. Ça ressemble énormément à de l'assistance. On risque encore d'accentuer donc davantage les inégalités qui existent entre les plus aisés et les plus pauvres, où on se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, les inégalités s'agrandissent. Alors moi je crois qu'il est encore possible, en faisant pression sur nos politiques, pour qu'ils aient une autre approche, il faut qu'on change de modèle économique. Il faut qu'on donne la priorité au travail et la priorité au salaire, parce que c'est à partir de là qu'on arrivera à trouver des financements donc pour nos régimes de protection sociale, pour tous les droits sociaux et pour tous les services publics.
Monsieur Yves Marty, je vous remercie d'avoir bien voulu participer à cette émission à l'invitation de la Ligue des droits de l'homme.
C'est avec plaisir.
Tunisie, Égypte, Côte d'Ivoire, Yémen, Algérie, Iran, Bahreïn. Le monde bouge. Tout le monde a les yeux rivés sur ces peuples qui tentent de conquérir leur liberté. La tâche est rude. Elle demande tant de sacrifices individuels et collectifs. Les pouvoirs en place résistent. Les proches du pouvoir ont trop à perdre. Ils tentent de trouver des boucs émissaires, de donner en pâture l'un d'entre eux pour calmer le peuple et garder les rênes. Le résultat est encore incertain. Les enjeux sont énormes pour chacun de ces pays, mais aussi pour l'ensemble du monde arabe, pour l'ensemble de notre univers. Si le virus se propageait trop, bien des pays pourraient être touchés. Peut-être même la France, qui sait. Devant tant d'espoir, devant tant de courage, devant tant de force tranquille et pour l'instant d'unité, je ne peux que soutenir évidemment, mais avec beaucoup de respect et d'humilité. Nous avons un devoir d'exemple, un devoir de mémoire. Oui, moi je le crois. Mais aujourd'hui, notre pays ne représente plus ça. Surtout pas l'exemple. Quant à la mémoire, beaucoup de nos dirigeants sont restés bloqués au colonialisme ou au post-colonialisme. D'autres ont carrément perdu la mémoire. L'utopie devrait rester notre moteur. La France, pays des droits de l'homme. Et pourtant, dans ce pays, évolution sociale égale régression des droits pour la majorité et augmentation nette des bénéfices pour un tout petit nombre. Nous sommes rentrés dans ce que certains appellent la post-démocratie, c'est-à-dire un semblant de démocratie qui est, en fait, le gouvernement par une élite, mais élue. Une partie de la société s'est spécialisée dans le métier politique. Les dirigeants sont en fait choisis par une minorité forte de la société pour faire très vite les appareils des partis politiques. La faute à qui ? La faute à tous les citoyens qui laissent faire. Ça arrange tout le monde. Certains appellent ça le syndrome de la grenouille. Vous connaissez ? La grenouille, si on la met dans une casserole d'eau froide, à feu doux, au début elle a froid, mais ça va. Petit à petit, la température monte, mais doucement, insensiblement. Mais la grenouille se sent bien, puis très bien, puis pas trop mal, pas vraiment mal, puis trop tard, elle est cuite. Alors qu'il suffisait de sauter hors de la casserole. Il en va de même avec nous. Petit à petit, nos droits sont grignotés, volés, pillés, et au bout du compte, sans réaction de notre part, nous nous faisons digérer. Regardez par exemple, aujourd'hui, sans sourciller, on est en train d'accepter la constitution de véritables milices, ou polices parallèles, avec ce que l'on appelle les réservistes de la police nationale. Formation plus que rudimentaire, droits et armements pratiquement identiques à ceux des professionnels. On accepte même sans broncher que le président qui nous représente, qui représente la France, mente ouvertement, au vu et au su du monde entier. Pour simple exemple, je prendrai le sommet européen et ses allégations sur la position de l'Allemagne par rapport aux Roms et à leur expulsion. démenti officiel dès le lendemain par le porte-parole allemand. Quelle honte! On accepte même, sans broncher, que le président qui nous représente, qui représente la France, ne respecte pas, et de façon réitérée, le droit de chacun à la présomption d'innocence, et non pas la présomption de culpabilité. Et que dire des ministres, dont le plus grand défaut, à mon sens, n'est pas les vacances, mais bien la vacance de réels politiques, vacance de leur place, en particulier sur le plan international, et donc vacance de la France. Par contre, pour ramasser, ratisser des bénéfices, pour eux et pour leur clan, là, pas de vacances. Ou même pendant les vacances. On peut dire même pendant les vacances. Peut-on leur reprocher ces fonctionnements? Bien sûr que oui. Même si l'exemple vient d'en haut, de leur maître. Ce n'est évidemment pas une raison. L'actualité de Villefranche-de-Rouergue rejoint la cohorte des luttes contre les expulsions des sans-papiers. Pour le moment, nous avons réussi collectivement à éviter qu'un jeune homme habitant Villefranche depuis un an soit reconduit dans son pays d'origine, qu'il a choisi de quitter pour fuir les grandes difficultés économiques qu'il rencontrait et pour tenter de se construire un avenir ici. Mais à tout moment, il peut de nouveau être arrêté et expulsé. Il faut l'aider à trouver une solution, un emploi en particulier. Mais à aucun moment, là aussi, nous ne pouvons vivre pour lui, à sa place. Nous ne devons pas non plus le juger selon nos propres critères. Nous pouvons, nous devons, proposer notre aide, proposer un accompagnement le plus humain possible, mais en finale, c'est à la personne concernée de faire les choix possibles, de vivre les conséquences de ses choix ou de ses non-choix. À nous de bien l'informer et de l'accompagner, mais surtout, ne jugeons pas les personnes. Les actes peut-être, mais pas les personnes.
Alors je voudrais terminer en vous signalant aussi que la prochaine émission aura pour thème égalité des citoyens, démocratie. Et j'ajouterai aussi que nous organiserons une conférence débat avec M. Jean-Pierre Dubois, président national de la Ligue des droits de l'homme, le vendredi 15 janvier à l'amphithéâtre du lycée Beauregard à Villefranche, lycée agricole, à 20h30. Bien, merci à vous tous et je vous invite donc à la prochaine émission qui se déroulera le mois prochain.